Merci, je suis heureux de me trouver dans ce cadre de rencontre avec cette présidence de la Fraternité d'Abraham. Excusez-moi, parce que je veux être sûr s'il y a des élèves à qui j'ai dit de venir, s'ils ont pu s'installer. Voilà, parce que comme je ne savais pas qu'il fallait s'inscrire, donc j'ai dit à des gens, donc je suis heureux de voir qu'on laisse passer quand même. Voilà, c'est pour ça que petit souci par rapport à ceux qui se sont déplacés. Voilà, la tradition juive a posé la question, si on devait mettre en balance la vérité et la paix, quelle serait la vertu suprême ? Est-ce que la vérité est au-dessus de la paix ou est-ce que la paix est au-dessus de la vérité ? Dans le cas où il y aurait une compétition entre les deux, je ne parle pas évidemment dans le cas où il y aurait une harmonie entre la vérité et la paix, que la vérité soit scientifique ou qu'elle soit religieuse ou politique. Et la tradition juive répond que le nom de Dieu est shalom et paix, qu'on entend comme salam ou comme salut, et que son sceau, sa signature, est emet, vérité. Et qu'il serait donc permis d'effacer la signature pour préserver le nom. Et c'est donc au nom de cette paix que dont nous essayons d'être les uns et les autres, les unes et les autres, des promoteurs, que je me trouve ce soir devant vous pour exposer et répondre à la question, du point de vue donc bien sûr du judaïsme, qui est Jésus pour Israël, qui est Jésus pour le peuple juif, ou plus modestement, qui est Jésus pour moi, l'orateur qui a été choisi pour vous parler. Et si je dis ça, c'est pas seulement pour donner ma subjectivité, mais c'est parce que je pense qu'il y aurait, si ce n'est chaque juif, en tout cas chaque tendance du judaïsme aurait sa réponse. Dans la mesure où le judaïsme, ce n'est jamais une autorité unique qui parle, mais c'est un ensemble de penseurs, d'hommes, de femmes aussi parfois, même si on est surtout dans une société patriarcale dans la Bible, des hommes et des femmes qui disent leur foi et leur vérité objectivement subjective ou subjectivement objective. Donc ça sera ma réponse, hein, ça sera ma réponse en considérant que c'est la réponse du judaïsme, voilà. Mais plus modestement, ça sera la réponse de Philippe Haddad, qui, en effet, je suis rabbin dans la communauté de la rue Copernic. Alors, je vais citer un ami avec qui nous nous rencontrons régulièrement, je crois qu'il est intervenu la dernière fois, c'est le père Guéguin, Michel Guéguin, qui est un des prêtres de la paroisse de Saint-Honoré-d'Eylau, et qui est une paroisse voisine de la synagogue de la rue Copernic. En fait, nous sommes situés à une rue et nous nous rencontrons une fois par mois, une fois à la synagogue, une fois à la paroisse, pour présenter respectivement nos textes. Et j'ai entendu cette formulation, sa définition qu'il devait sans doute citer de ses maîtres, mais moi je vais citer l'auteur. Il dit la chose suivante, « Les évangiles sont quatre témoignages de la mort et de la résurrection du Christ avec une introduction plus ou moins longue. » Moi, j'ai fait mienne, en quelque sorte, cette définition. Les évangiles comme quatre témoignages de la mort et de la résurrection du Christ avec les introductions. Autrement dit, les lunettes de lecture des évangiles sont les lunettes de la foi chrétienne, quelle que soit la forme et l'expression de cette foi, qu'elle soit catholique, protestante, évangélique, orthodoxe ou autre, ou en sous-groupe en quelque sorte. C'est d'abord des lunettes de la foi, c'est-à-dire d'une rencontre avec Jésus qui rend évident à celui ou celle qui a vécu cette rencontre que Jésus est le Messie ou le Christ ou le Mashiach, si on le dit en hébreu. Et comme le Messie est dans les textes de la Bible, chez les prophètes et dans les psaumes, est fils de Dieu, alors c'est aussi le fils de Dieu. Donc je dirais on est chrétien que lorsqu'on a rencontré Jésus. Donc la question, c'est si on n'a pas rencontré Jésus. Et que reste-t-il de ce livre ? Donc je dirais, hormis cette lecture objectivement subjective ou subjectivement objective, il reste quatre témoignages, prenant les quatre évangiles. On pourrait peut-être aussi ajouter les lettres de Paul, les épîtres de Paul, qui lui aussi a rencontré Jésus, ce pharisien qui a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Voilà, il reste donc des témoignages en lien direct ou en deuxième génération, en deuxième niveau, qui expriment chacun ces quatre témoignages, chacun dans son langage ou dans son mode d'écriture, des faits évangéliques. Donc le judaïsme, là je parle de façon générale, le judaïsme, puisque justement s'il y a le judaïsme, le christianisme, c'est que le judaïsme n'est pas le christianisme et le christianisme n'est pas le judaïsme. Le judaïsme qui n'a pas rencontré le Christ, qui est aussi un Christ théologique, le Christ théologique de l'Église, a-t-il quelque chose à dire sur le Jésus historique qui n'est pas forcément le Jésus de l'Évangile ? Je veux dire par là que l'on constate que les quatre messages ou les quatre testaments, les quatre témoignages, sont trop construits pour ne pas supposer une volonté de prouver la vérité évangélique. Par exemple, la référence de manière évidente ou allusive à des principes ou des valeurs de la Bible hébraïque ou de la tradition orale d'Israël, les nombres, on va dire 3, 7, 70, 12, qu'on retrouve dans la Bible hébraïque, qu'on trouve déjà dans la Bible hébraïque. Les noms sont-ils anodins quand on parle de Joseph, Marie, Jésus, Yeshua, Judas, Yehuda. Les modalités d'enseignement, les paraboles, les raisonnements par analogie, etc., suggèrent à l'oreille juive qu'il s'agit d'une écriture de type midrashique. J'appelle par midrashique une manière de redire le texte, la vérité de la foi, selon des critères qui parlent à une collectivité, soit sur le plan symbolique, soit sur le plan mémoriel, soit le plan intellectuel, affectif, ou sur le plan de la foi. Comme par exemple, afin que s'accomplisse, qui rappelle dans la tradition juive le Shenemar, comme il est dit, Kedirtiv, comme il est écrit. Il ne s'agit pas de remettre en cause, bien sûr, l'historicité de Jésus, même si certains maîtres ou chercheurs d'Israël, d'hier et d'aujourd'hui, le supposent ou le soutiennent, mais de découvrir l'image réelle et historique qui se cache derrière l'image théologique et l'écriture, qui est une écriture de la foi, après la rencontre avec Jésus. Du vivant de Jésus, rien n'est écrit. Jésus lui-même n'a rien écrit, comme les grands maîtres, comme Abraham, qui est notre président d'honneur. Ajoutons Sarah pour la parité, c'est important, Abraham et Sarah. Voilà. Surtout qu'Abraham a dit de sa femme, elle était sa sœur, alors la fraternité, on va dire aussi. Voilà. Corollairement, la question peut être ainsi posée, jusqu'où un juif, je dirais de tradition religieuse, parce que dans le judaïsme, il y a aussi des juifs qui n'ont pas de tradition religieuse ou qui ont rompu avec Dieu, avec la foi, avec la pratique. Donc du point de vue de la tradition religieuse, dans le sens le plus large, les plus libéraux depuis jusqu'aux plus orthodoxes, jusqu'où un juif peut-il aller dans son dire sur Jésus, qui ne sera pas ici Jésus-Christ, mais Jésus Yeshua. Si on pourrait aussi parler dans ces différentes écoles, peut-être aussi des juifs messianiques. Si ça vous intéresse, peut-être on pourra en parler. Alors, il existe des lectures négatives et très sévères à l'encontre de Jésus, aussi sévères que certains propos de Jésus ou de l'évangéliste qui fait parler Jésus à l'encontre des pharisiens ou du peuple juif. Action, réaction. Je crois que c'est vrai en physique et c'est vrai en psychologie. Parce qu'au Moyen-Âge, il y avait un livre qui circulait, Toldot Yeshu, les engendrements de Jésus, qui était un livre polémique à l'encontre de Jésus, parce que le Moyen-Âge, à la fin de la période des patristiques, n'est-ce pas, le peuple juif étant déconsidéré, ayant perdu son statut de peuple de Dieu, de peuple d'Israël, on parlait du Verus Israël en parlant de l'Église, évidemment, il y a eu également des réactions aussi négatives. Semez la haine, vous récolterez la haine. Semez la paix, vous récolterez la paix. Vérité d'hier et d'aujourd'hui. Bien, ça permet de réconcilier la vérité et la paix. Personnellement, me considérant comme un juif de la foi d'Israël, ayant fait mon propre cheminement spirituel, mes propres choix également, je viens du monde orthodoxe, orthopraxe, et je suis aujourd'hui rabbin d'une communauté libérale, je poserai personnellement et au contraire un regard extrêmement positif et attendri à l'égard de Jésus, même si je ne partage pas la foi chrétienne. C'est donc bien en tant que juif que vous m'invitez. Et c'est ce témoignage dont je voudrais porter aujourd'hui les propos devant vous. Le plus loin où l'on puisse aller serait de considérer ce que Jésus a dit et a fait, plutôt que de s'attacher à ce que l'on a dit et ce que l'on a fait de Jésus. Voilà, je ne pourrais pas aller, ou je pense qu'un juif ne pourrait pas aller au-delà d'un regard sur ce que Jésus a dit, sur ce que Jésus a fait. Après, c'est la question de la foi, de la théologie, de la rencontre intime avec Dieu, qui est bien sûr une foi authentique comme toutes les fois. Donc s'attacher à ce qu'a dit Jésus, à ce qu'a fait Jésus, serait déjà une ouverture, une écoute de l'oreille juive. Dans le temps de la réconciliation, notamment avec Nostra Aetate, dont on a parlé, Vatican II. Et depuis 67, ce dialogue aussi à trois voix avec l'islam, nos frères et sœurs de l'islam. Alors, je voudrais parler rapidement, comment j'en suis arrivé à cela. Ben, je vais parler d'un témoignage, donc je vais témoigner d'une aventure qui était vécue en Essonne, dans le département de l'Essonne, où j'étais rabbin pendant plusieurs années, rabbin dans la communauté des Ulysses, et où, avec la bénédiction de mon évêque de l'époque, qui s'appelait Monseigneur Dubost, et oui, un rabbin peut avoir un évêque, dès l'instant il appartient à un évêché, voilà, et où nous avions reçu, juifs et chrétiens, la bénédiction de Monseigneur Dubost, d'enseigner le judaïsme d'abord à des catéchistes, des enseignants, et puis plus tard ça s'est ouvert aussi à des hommes et des femmes de foi chrétienne, essentiellement catholiques, mais il y avait aussi une église protestante à Palaiseau, et aussi avec le groupe des relations avec le judaïsme. Et en enseignant régulièrement chaque année le judaïsme, on m'a demandé, mais qu'est-ce qu'un rabbin aurait à dire sur le christianisme, sur Jésus, sur les évangiles? Voilà, donc ça a été un défi. Fait comme Job, je connaissais Dieu par huit dires, et puis maintenant j'ai rencontré Dieu, mais je connaissais Jésus par huit dires. Un jour, je l'ai rencontré à travers l'évangile. Donc c'était plus un huit dires, c'était un dire... Oui. Eh bien, je dirais, voilà, pour simplifier, comme ça, si jamais le micro se coupe, au moins vous aurez entendu, Jésus est un rabbi d'Israël qui est mort en martyr. Un rabbi d'Israël qui est mort en martyr, comme d'autres rabbis sont morts en martyr sous le coup impitoyable de Rome, à l'époque du deuxième temple ou après la destruction du deuxième temple de Jérusalem. Alors dire que Jésus est un rabbi parmi les rabbis ne signifie pas qu'il faille inférioriser son discours ou noyer son discours dans un pot-au-feu de sagesse. Non, il s'agit en même temps d'en dégager l'originalité. Car que plus d'un milliard, peut-être deux, je ne sais pas le chiffre exact de chrétiens dans le monde, et jusqu'aujourd'hui sont imprégnés de cet enseignement de Jésus, continuent à vivre et donner sens à leur existence en vivant dans la foi en Jésus, signifie que cet enseignement est d'une puissance qui traverse les siècles. Bien sûr, on pourrait dire cela et de Moïse et de Mohammed, c'est-à-dire la puissance d'une parole qui traverse les siècles et qui continue de faire école, disciple, ou qui se transmet de parents à enfants, donc dans les familles. Donc quelle est son originalité si en même temps on le situe au sein d'Israël, donc dans les racines juives ? En quoi Jésus s'inscrit-il dans la tradition d'Israël et en quoi Jésus renouvelle, peut-être d'une certaine manière, un sens ? Il ferait ce qu'on appelle en hébreu du ridouche, du renouvellement de sens. Alors la première difficulté, c'est d'abord que nous n'avons pas l'évangile en araméen ou en hébreu. On a le texte en grec qui a été traduit ensuite dans toutes les langues. Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent avec un public juif et chrétien, c'est que la foi chrétienne s'attache davantage à la foi en Jésus, au geste de Jésus, qu'à la langue de Jésus. Alors que dans le judaïsme, on s'attache au corps de la lettre thoraïque. Je dirais que le chrétien écoute Jésus dans ses moindres détails, comme le juif lit la Torah et la Bible dans ses moindres détails. Alors, Jésus n'a pas parlé en grec. Il a parlé en araméen, sans doute il a cité des versets en hébreu, il connaissait l'hébreu, l'araméen, il allait à la synagogue, il lisait dans les prophètes Isaïe, donc il connaissait les deux langues. Et c'est un problème majeur de savoir qu'est-ce qui a été dit dans la langue originelle. Alors je dirais, premièrement, Jésus est un défenseur du monothéisme abrahamique, c'est-à-dire le monothéisme éthique. Le message d'Abraham, seront bénies par toi toutes les familles de la terre. C'est-à-dire que se réclamer d'Abraham, c'est se vouloir vecteur de bénédiction, le plus d'être donné, réconcilier, améliorer la vie, donner du plus. Révéler Dieu, comme au buisson ardent, un feu qui éclaire sans brûler et sans détruire. Et en même temps, Jésus est un fidèle de la loi de Moïse. Au début du sermon sur la montagne, je ne suis pas venu pour abolir la loi. On traduit la loi parce qu'on est passé par le grec, nomos, mais c'est la Torah, qui est aussi enseignement. Puis au début du chapitre 8 de Matthieu, par exemple, le premier miracle de guérison du lépreux, et va vers le Cohen, va vers le prêtre et suit la loi de Moïse. Rien de ce qu'il dit, de ce qu'il fait dans son enseignement, ne remet en cause, quand on étudie, son enseignement ne remet en cause le monothéisme et la loi de Moïse. Il proclame un même Dieu pour l'humanité qu'il appelle Père, mon Père, notre Père. Ben oui, Dieu c'est notre Père à tous. Même si on pourrait dire aussi que c'est notre Mère. Alors, bon, vous remarquerez qu'à chaque fois j'essaie de mettre la parité parce que je crois que c'est important de remettre le rôle des femmes. Voilà. Et oui, parce que Dieu est père et mère en même temps, parce qu'il a créé l'homme masculin et féminin, l'humain, à son image. N'oublions pas et redonnons cette dimension aussi féminine de Dieu. Moi, je dirais, dans la tradition juive, on trouve dans la Kabbale, par exemple. Dieu, c'est le masculin, le féminin. Tiferet, le masculin, Malchut, la royauté, c'est la femme, c'est la reine. Il nous met en garde contre les pièges de la société. On ne peut pas servir de maître, ou bien on sert Dieu, peut-être il dit Adonai, ou il dit Seigneur, ou l'argent, mammon, mammon, voilà. Il faut faire un choix. Qu'est-ce qu'on met au service de l'autre ? Il y en a qui mettent Dieu au service de la monnaie. Ou alors on met l'argent, la bénédiction, les biens matériels au service de Dieu. Il nous parle sans arrêt du royaume. En même temps, pour dire qu'il est ici. Alors on peut le dire de différentes manières. Dans l'oreille juive, ça veut dire ben, il est là si on veut qu'il soit là, ce royaume. Donc à nous de le cultiver, de l'amener. Voilà, peut-être nous sommes dans le royaume ce soir. Nous sommes dans le royaume, nous sommes en paix, en amour, en fraternité, en partage. Alors, bien sûr, il y a une difficulté. Alors, je n'ai pas le temps de développer les arguments, je dis de façon générale. Pour moi, quand je lis et je relis les enseignements, les méthodologies, les manières de parler, c'est l'affirmation du monothéisme. Et c'est de ramener les hommes vers Dieu. Même si, dans un premier temps, il dit « Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël ». Alors, en plus, il voulait d'abord enseigner à Israël et puis... mais aller aussi enseigner chez les nations, à condition d'être des lumières éclairées sans brûler, exemplaires. Voilà, on enseigne par l'exemple. Ah, bien sûr, quand on lit les évangiles, on s'aperçoit que Jésus a un rapport soit avec les pharisiens, soit avec Israël, surtout dans Jean, ou, qui pose problème. Je dois vous dire aussi, quand un juif veut lire les évangiles, il est mal à l'aise avec les propos contre les pharisiens, ou le peuple juif, les juifs, les pharisiens, les scribes. Bon. Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Est-ce que c'est l'évangéliste qui dit les juifs, les pharisiens, les scribes? Parce qu'on est déjà, au moment de l'écriture, dans une période de polémique. Parce que quand on regarde les textes de la tradition juive, le Talmud, nous voyons également qu'il y a une critique des pharisiens hypocrites. Mais ça ne veut pas dire que les pharisiens sont hypocrites, mais ça veut dire que parmi les pharisiens, il y a des hypocrites. Et donc, on critique l'hypocrisie des pharisiens qui sont hypocrites. Mais ça ne veut pas dire que l'ensemble des pharisiens, qui constituent un groupe à l'intérieur du monde religieux, soient forcément disqualifiés. Mais évidemment, la manière dont c'est écrit pose problème. Je dirais que si Jésus avait dû choisir une synagogue, il se serait senti plus à l'aise dans une synagogue libérale, type rue Copernic, que dans une synagogue orthodoxe de type chamaille, rigoriste. Quoique des fois, Jésus a des positions de chamaille contre Hillel, 30 ans avant Jésus. Chamaille interdit le divorce, sauf en cas d'infidélité. Jésus dit ce que Dieu a uni, il ne faut pas le séparer. Ça, c'est l'opinion de chamaille, alors que Hillel était beaucoup plus souple. Enfin, il disait, oui, si ça ne fonctionne pas, ben voilà... on recommence avec quelqu'un d'autre. Voilà. Mais Jésus était plutôt chamaille que Hillel. Mais quand même, il se sentit plus à l'aise, je pense, dans une synagogue libérale. Lui, on a dit qu'il aimait les femmes, d'un amour, bien sûr, spirituel. Et dans ces synagogues où il y a la place des hommes et des femmes, je pense qu'il se serait senti plus à l'aise contre un rigorisme ou religieux qui ne serait qu'une façade religieuse. Et la critique de Jésus, qui rejoint sans doute celle des prophètes, eh bien, c'est la critique d'une religion de façade qui ne touche pas le cœur. Alors je conclurai en disant que Jésus est né juif, il a vécu en juif, il est mort en juif, on a même mis sur un écriteau qu'il était même le roi des juifs, et qu'il a créé ou engendré d'abord une école qui était une école de judéo-chrétien, l'église de Jacques, manger kasher, pratiquer la circoncision, respecter le Shabbat, et ce qu'ils ont ajouté en plus de ce qu'on appelle traditionnellement les 613 commandements, c'est de dire que Jésus était le Messie. Et qu'avec Paul, s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait des païens? Est-ce qu'ils doivent passer par le moule du judaïsme et de la pratique des commandements? Et finalement, on arrive à un consensus, le premier concile de Jérusalem. Voilà, je dirais pour terminer que l'image de Jésus me rappelle l'image des rabbis chassidiques, miraculeux, conseillers, pleins d'amour pour leurs ouailles dans les temps de difficulté, l'époque de l'occupation romaine ou de celle des pogroms. Pour moi, Jésus reste, oui, je le dis, il reste un guide pour moi. Parce que quand je lis le Sermon sur la montagne, je terminerai là-dessus, je me dis, on dit souvent c'est pas facile d'être juif, moi je dis que c'est pas facile d'être chrétien. Je me suis posé une question, je terminerai là-dessus, c'est presque une boutade juive, mais quand même. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et n'ayez pas de soucis pour ce qui va arriver demain. Qu'aurait dit Jésus pour la boîte de conserve ? Voilà, je vous remercie.
Un très grand merci, Rabbi Haddad, pour votre présentation aussi chaleureuse, aussi sympathique. J'ai retenu ce regard de tendresse que vous posez sur Jésus, qui ne surprend pas de vous, mais qui est quand même, on n'entend pas ça très souvent aussi. Donc déjà, ça c'est très beau. Et puis, vous avez bien montré quand même les difficultés qui se produisent, surtout quand on lit Saint Jean. Mais vous avez relativisé en disant que déjà il y a les critiques contre les pharisiens dans le milieu juif. Et vous avez résumé né juif, mort en juif, qui a créé une école judéo-chrétienne avec Jacques. Vous avez bien marqué l'élargissement avec Paul. Et cette très belle image sur laquelle nous nous laissons, l'image racidique d'un guide. Et vous faites cette belle référence au Sermon sur la montagne. Eh bien, c'est déjà magnifique ce que vous avez dit.